La capsule.
Allô ?
Allô ?
Allô ? Allô ?
Allô ? Allô ?
Le coup de fil à un ami.
Allô ?
Au signal, veuillez dicter votre message.
Alors moi, j'aimerais savoir ce qu'est la médecine spatiale.
Au CNES, celle qui sait, c'est Guillemette Gauquelin, responsable des sciences de la vie. Allô, Guillemette ?
Oui.
Est-ce que tu peux m'expliquer en quelques mots ce qu'est la médecine spatiale ?
La médecine spatiale, en fait, c'est la médecine générale, puisqu'en fait, tous les organes sont touchés. On l'appelle spatiale parce que c'est des études qui sont faites dans l'espace.
Et comment et pourquoi cette discipline a-t-elle né ?
Elle est née à la suite de l'exploration et des vols spatiaux, puisqu'on a montré que l'absence de gravité, on savait qu'il y aurait des troubles et des dysfonctionnements. La gravité a façonné pendant des millions d'années notre règne, que ce soit animal ou végétal. Et si on n'avait pas de gravité, on n'aurait pas besoin d'un système cardiovasculaire aussi développé, on n'aurait pas besoin de tissus osseux, on n'aurait pas besoin de tissus musculaires, etc. Donc en fait, si tu veux une démarche scientifique, pour mieux connaître un système, on étudie les conséquences de son exclusion. Or, dans l'espace, on n'a plus de gravité. Donc, on étudie l'absence de gravité.
Concrètement, au quotidien, c'est quoi le travail d'un médecin de l'espace ?
Au quotidien, c'est déjà de sélectionner les cosmonautes en fonction de leur état de santé, de faire le suivi médical des cosmonautes au cours de la mission, c'est-à-dire c'est surtout focalisé en fait actuellement sur tout ce qui est système cardiovasculaire, osseux, musculaire, et également d'avoir des effets préventifs, par exemple sur les radiations. Et ensuite, il a à s'occuper de la réhabilitation des cosmonautes après le vol. C'est-à-dire que les cosmonautes ont un certain nombre de petits problèmes après le vol, il faut qu'ils les réhabilitent en leur faisant faire des exercices musculaires, etc.
Et est-ce que la médecine spatiale a des applications concrètes sur Terre pour nous ?
Oui, ça nous attire l'attention sur un certain nombre de problèmes qui interviennent sur Terre comme dans l'espace. Par exemple, on se rend compte que dans l'espace, on a une activité. Donc on peut étudier les effets délétères de l'inactivité sur un certain nombre de pathologies sur Terre. Sur le système osseux, avec la déminéralisation osseuse, on sait que si on ne fait pas d'activité à 50 ans, on aura de l'ostéoporose, puisqu'il se produit une accélération du vieillissement dans l'espace, comme sur Terre, et également les problèmes musculaires. On a développé un certain nombre d'appareils pour monter dans la station qui ont permis d'avoir des applications sur Terre. Par exemple, des petits haut-terres et des petits Doppler miniaturisés qui sont maintenant utilisés couramment dans les hôpitaux. On a développé Cardiomètre pour faire un suivi médical des cosmonautes russes. C'est un système qui intègre une quantité de fonctions dans un tout petit boîtier. On a également mis au point des techniques de densitométrie osseuse pour voir l'état de l'os des cosmonautes, des tout petits densitomètres qui permettent également de travailler dans les hôpitaux avec. Donc en fait, il y a toute une série comme ça d'appareils qui ont été développés pour l'espace qui servent maintenant dans les hôpitaux en routine, puisque c'est des appareils très performants et c'est surtout des appareils tout petits. Donc on peut les mettre dans les SAMU, au pied du malade, etc. Et il y a d'autres appareils qui ont été également développés de façon plus spécifique pour l'espace, pour tout ce qui est neurosciences, des problèmes pour l'équilibre statique, etc., qu'avaient les cosmonautes, et qui servent également maintenant pour le diagnostic de certaines pathologies, d'accidents vasculaires cérébraux, du système nerveux central, etc.
Et pour le futur, c'est quoi l'enjeu ?
C'est vraiment des enjeux fondamentaux. C'est pas possible, éthiquement, de laisser partir des gens, des êtres humains, pendant un an et demi, deux ans, voire trois ans pour Mars, sans développer des contre-mesures.
Une contre-mesure ?
Voir quels sont les exercices musculaires, les exercices au niveau de l'os, les exercices au niveau du cardiovasculaire, etc., que l'on peut appliquer chez le cosmonaute de façon à ce qu'il n'ait pas les problèmes qu'il rencontre au retour au sol ou pendant le vol spatial. Le problème, c'est qu'il faudrait faire au moins 2 heures d'exercice musculaire par jour. Or, ils n'ont pas le temps de faire autant. Donc, petit à petit, on essaie de trouver des contre-mesures qui soient rapides et efficaces. On voudrait trouver une contre-mesure, en fait, qui soit bien pour tous les systèmes modifiés.
Merci, Guillemette Gauquelin.
Ah, merci, c'est quand même beaucoup plus clair comme ça.
Dans tous les sens,
les sens.
Dans tous les
dans
sens.
Tous.
Dans tous les sens.
Dans tous les sens.
Dans tous les sens.
Résolution. 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 Pour un satellite d'observation, l'essentiel, c'est d'avoir une bonne résolution. Cela ne veut pas dire qu'ils doivent promettre à chaque début d'année d'arrêter de fumer ou de se remettre au sport. Non, ces bonnes résolutions-là, ils nous les laissent, connaissant trop bien leur fragilité. La seule résolution qui vaille pour un satellite d'observation, c'est celle des images qu'il prend quotidiennement. La résolution, c'est un peu comme l'échelle pour une carte géographique. À quelle distance sur le terrain correspond chacun des minuscules carrés, les fameux pixels, qui composent l'image? Plus cette distance sur le terrain est petite, plus la résolution est élevée. La première génération des satellites Spot avait une résolution de 10 mètres. La dernière, représentée par Spot 5, a une résolution 4 fois meilleure. Une vraie révolution que cette résolution. Et pour les satellites de défense, comme l'éblouissant Helios, la résolution a encore fait un bond de géant. Mais chut, secret défense. Après tout, peu importe, car résolution n'est pas forcément raison. À trop s'arrêter sur les détails, on peut manquer la vue d'ensemble et ne plus rien comprendre à la situation. Pour un satellite, finalement, la bonne résolution, ça n'est pas forcément la plus élevée, mais celle qui lui permet d'accomplir au mieux sa mission. N'est-ce pas là une sage résolution ?
Mais qu'en pensent les étoiles ? Mais qu'en pensent les étoiles ?
Pas de panique, mais un peu d'attention, s'il vous plaît. Un village de Lettonie qui ne trouve pas de meilleure manière de se faire connaître que de faire croire à une météorite tombée dans l'un de ses champs, une météorite qui se désagrège au-dessus d'une île en Indonésie, les dernières semaines ont apporté deux nouvelles pièces au dossier, déjà bien fourni mais complexe, du risque qu'un jour notre planète ne heurte un astéroïde d'un gabarit suffisant pour mettre en danger notre Terre et ses habitants, comme cela semble déjà avoir été le cas au temps des dinosaures. De fait, depuis que leurs instruments d'observation et de calcul atteignent d'incroyables précisions, les astronomes ne manquent pas de repérer des corps célestes dont la trajectoire pourrait croiser un jour celle de notre planète. Diverses situations se présentent alors. Certains d'entre eux sont trop petits pour être repérés, mais aussi trop petits pour présenter un vrai danger. Les plus grands ont été facilement repérés, leur trajectoire analysée. Aucune alerte n'est lancée pour les siècles qui viennent. Restent les corps de taille moyenne, de quelques centaines de mètres de diamètre, difficiles à débusquer mais malheureusement potentiellement dévastateurs. Faut-il ignorer ce danger, faire l'autruche, rejoindre les rangs des prophètes de malheur qui se contentent d'annoncer la fin du monde, ou bien encore appliquer l'antique adage « après moi le déluge » À mes yeux, ce sont autant d'attitudes peu dignes des homo sapiens que nous sommes. Nous devons regarder la réalité en face, scruter, surveiller le ciel, tout comme nous le faisons désormais dans le champ de la météorologie, de la santé ou des médicaments. Loin de brider l'action ou l'entreprise, veiller est une manière de se préparer au futur. Il faut connaître, mieux connaître, avant d'agir. Car vis-à-vis de ces menaces célestes, des parades peuvent être imaginées, pas nécessairement sorties de l'imagination des créateurs hollywoodiens. D'éminentes institutions, comme l'Académie internationale d'astronautique, se sont d'ores et déjà penchées sur ce dossier. N'oublions pas non plus d'informer le public, avec objectivité et honnêteté, sans provoquer une panique immédiate. C'est là une tâche fort délicate. Comment en effet tenir compte des peurs ancestrales, du bruit de fond culturel ? Comment assurer la crédibilité du savoir et de la démarche scientifique ? Je le sais bien, la menace d'un astéroïde nous oblige à penser à des échelles peu courantes de temps et de moyens. Pour autant, elle ne nous retire pas de notre condition humaine, ne nous empêche pas de recourir à nos capacités les plus singulières, à ce mélange de prudence et d'audace, de bon sens et de folie, d'ingéniosité et de maladresse. Nous avons tous, quelque part, des Gaulois pour ancêtres.
Alors, allons-y.
Allons-y.
La capsule a été imaginée par Daniel Fievé, Didier Jamais et Séverine Klein. Écrite par...
Essentiellement Didier Jamais.
Et c'est qui a écrit le titre?
C'est quand même le plus important.
Il n'y a pas que toi, il y a Jacques Arnoux.
Oui, bien moi
aussi. Mais on ne peut pas mettre ma chronique et celle de Jacques au même niveau.
Non, tu as raison. Et d'ailleurs, ta chronique ne serait rien sans ma voix.
Et moi, je suis l'auteur du titre. Et ben qui c'est qui va aller sur le terrain?
C'est Daniel qui a raison. Le talent, la création, c'est nous.
Oui, mais le montage, l'habillage, c'est
non, mais bon.
Bon, les rois de la créa, là en bas.
Oui.
Roger.
Votre temps de parole est écoulé pour aujourd'hui. Il serait peut-être temps de rentrer chez vous.
On redémarre? C'est qui a les clés?
Allez, à la prochaine.